Les écoles spécialisées apprennent à lire aux enfants déficients mentaux. Cependant, il est possible qu'une fois adultes, ils ne sachent toujours pas lire. À qui la faute ? Sandra Vanek, responsable du service consultation du CEFES, le centre d'études et de formation pour l'enseignement spécialisé, pointe du doigt les lacunes de cet enseignement.
La réalité de l'enseignement spécialisé, c'est qu'ils ont quand même des classes qui sont assez importantes. Ils ont les personnes qui ont une déficience intellectuelle, c'est vraiment pas du tout un groupe homogène. C'est-à-dire que c'est toutes des personnes qui ont des difficultés qui sont très très spécifiques et qui varient les uns des autres. Donc c'est très difficile de faire une aide individualisée. Voilà, en sortant de l'enseignement spécialisé, il y en a beaucoup qui ne savent pas lire.
Le docteur Calouane, spécialiste de l'handicap mental au sein du cabinet de la secrétaire d'État aux personnes handicapées, nuance cependant. Malgré ces difficultés, l'enseignement spécialisé tente de faire acquérir un niveau minimum de lecture aux déficients mentaux, celui de la lecture sociale.
En principe, à la sortie de leur scolarité secondaire, ils ont au moins eu l'occasion d'avoir un certain apprentissage de la lecture. Bien entendu, les progrès et les acquis sont très variables d'un individu à l'autre. Ce qu'on essaye de faire dans l'enseignement spécialisé, c'est quand même d'arriver à un certain niveau de lecture, qu'on appelle la lecture au moins sociale, c'est-à-dire que des messages simples peuvent être lus par le jeune qui arrive en fin de parcours pour ceux qui sont les moins doués, entre guillemets. Pour ceux qui sont doués davantage, on est plus ambitieux et on essaye d'arriver à ce qu'ils puissent avoir un niveau de lecture qui leur permette un enseignement professionnel.
Mais qu'en est-il alors de ces personnes moins douées qui veulent approfondir leur apprentissage de la lecture une fois adultes ? En sont-elles capables ? Si certains prétendent que non, les professionnels qui travaillent sur le terrain ne sont pas du même avis. Guillaume Petit, professeur à la SBL Lire et Écrire.
Les récentes théories scientifiques vraiment poussent à se dire qu'on peut apprendre à n'importe quel âge. On n'apprend pas moins bien parce qu'on est adulte que lorsqu'on est enfant. Donc il y a beaucoup d'idées fausses et ce sont des représentations. Donc évidemment, on se dit que la personne handicapée mentale est juste une personne qui n'est pas capable. Elle a un handicap mental, donc elle n'a pas de faculté mentale, donc elle ne pourra jamais apprendre. C'est faux. On est tous capables. On n'a pas tous le même rythme, on n'apprendra pas les mêmes choses, on n'aura pas les mêmes compétences à la fin, mais on peut tous apprendre. C'est évident. Une personne comme ça, qui pendant très longtemps a été résistante à toute forme d'apprentissage, a appris l'heure en 2 semaines. Donc tout est possible. Par contre, évidemment, pour ça, il faut du temps, il faut des moyens, il faut des personnes qui soient compétentes et formées. Et dans ce cadre-là, évidemment, ça a un coût énorme.
L'alphabétisation des personnes handicapées nécessite donc beaucoup de moyens. Pourtant, les rares structures existantes doivent souvent se débrouiller sans subside des régions. Des régions qui devraient assumer le coût supplémentaire dû à la prise en charge des personnes handicapées. Docteur Calouane.
La matière de l'intégration, entre guillemets, ou de l'inclusion de la personne en situation de handicap est une prérogative des régions. C'est donc les régions qui doivent prendre des initiatives. Au niveau fédéral, ce qu'on fait en fait, ce qu'on peut faire, c'est coordonner les initiatives des uns et des autres. Mais le niveau fédéral n'est pas compétent pour prendre des initiatives.
Des subsides venant des régions permettraient d'augmenter le nombre de structures visant à l'alphabétisation des personnes handicapées mentales. En effet, si les associations d'alphabétisation sont nombreuses, elles ne sont pas adaptées à ces personnes. C'est d'ailleurs pour cela que le CEFES, initialement destiné à la recherche, a développé des cours d'alphabétisation pour personnes handicapées mentales, en parallèle avec son activité principale.
Il y a en effet les centres d'alphabétisation habituels, comme Lire et Écrire ou le collectif Alpha. Il y a beaucoup de centres de formation à l'alphabétisation. Mais ces personnes ont difficulté à s'y intégrer parce qu'elles sont tellement lentes par rapport aux autres qu'elles ne vont pas apprendre aussi vite et donc elles ne vont pas passer les niveaux, les autres vont passer les niveaux et donc c'est assez compliqué. Et puis c'est vrai que les personnes qui sont formées en alphabétisation ne savent pas toujours non plus comment faire parce qu'elles ne connaissent pas la déficience intellectuelle. Enfin, il y a quelques petites expériences un peu partout. Il y a des gens qui essayent de donner des cours de lecture, mais il n'y a jamais rien qui est mis en place vraiment, quoi. Donc nous, c'est vrai que notre objectif, c'est que c'est peu à peu dispatché en plus. Enfin, nous, on ne donne plus les cours d'alphabétisation, mais que ce soit d'autres personnes qui les donnent, mais dans des centres déjà existants, ou peut-être même au travers Lire et Écrire aussi.
Les demandes étant nombreuses et les solutions rares, la SBL Lire et Écrire accepte les personnes handicapées mentales, mais préfère toutefois éviter de les intégrer dans les groupes de lecture. Guillaume Petit.
Ici, et c'est un peu choquant dans un sens, on ne peut pas accepter de personnes handicapées mentales. Donc, a priori, on ne doit pas avoir dans nos groupes de personnes qui sont déficientes mentales, par exemple, qui ont une pension de la WIP, ou on ne devrait pas. Pour différentes raisons. La première des raisons, c'est qu'on veut éviter l'amalgame entre l'illettrisme est un handicap et notre public, c'est un public de handicapés. Ça met des gens mal à l'aise parce que ils vont soit la rejeter, soit s'identifier à elle. Et en s'identifiant, ils vont se dire « mais moi je ne suis pas ça, je comprends les choses, pourquoi est-ce qu'on me renvoie cette image que je suis handicapé ?» Donc en aucun cas ça permet d'augmenter le dialogue entre les différentes personnes, qu'elles soient valides mais handicapées par l'illettrisme ou handicapées mentales.
De plus, pour apprendre à lire aux personnes handicapées mentales, un autre problème se pose. Les méthodes doivent être différentes de celles utilisées pour les personnes ne présentant aucune déficience mentale.
Il faut un cocktail pédagogique. Il faut que tout soit possible pour multiplier les chances que ces personnes accrochent et finissent par suivre finalement peut-être un schéma auquel on n'aurait pas pensé pour elles. Et si on se cantonne simplement à une méthode pour chaque handicap, on écarte cette possibilité-là. À mon avis, ça doit vraiment partir, ça doit être une pédagogie qui doit être auto-construite à partir de l'apprenant lui-même. C'est-à-dire qu'on doit partir de ce qu'il sait faire.
Au CFES, on essaie justement de prendre en compte les difficultés de chacune des personnes déficientes mentales prises en charge pour adapter les méthodes d'apprentissage de la lecture. Cela s'avère en effet plus que nécessaire. Sandra Vanek.
Au niveau de la déficience intellectuelle, justement, le profil de chaque personne est très très différent. Il présente beaucoup de troubles, par exemple, beaucoup de troubles, souvent des troubles du langage, des troubles de la mémoire à court terme. Et ces troubles sont des troubles qui viennent interférer, bien sûr, avec l'apprentissage de lecture. On a essayé de reformaliser beaucoup plus les cours que l'on donnait et vraiment d'essayer d'adapter des méthodes, et en tout cas de proposer une démarche pour aborder les difficultés des personnes en situation de handicap. Vu tous les déficits que ces personnes présentent, c'est clair qu'il faut, il leur faut plus de temps que quelqu'un d'autre pour apprendre à lire. Donc c'est clair que nous, l'objectif n'est pas qu'on a pour elles, c'est pas de leur apprendre à lire comme vous et moi, mais c'est qu'au moins ils puissent se débrouiller avec la lecture dans le quotidien.
L'ASBL Lire et Écrire partage les mêmes objectifs.
Si à la fin de l'année, ils connaissent tous les jours de la semaine, peu importe, on aura fait une partie de notre boulot, même si on n'est pas encore à une pédagogie qui est suffisamment adapté à ce public-là pour réussir à aller plus vite, à faire que ces choses-là s'intègrent plus vite. Mais si ces personnes-là savent prendre une semaine et dire « je connais tous les jours, donc a priori je sais me repérer », on peut travailler le temps, on peut travailler la projection dans le futur, on peut travailler la mise en place des projets pour eux, ce qui compte pour eux. Là, quoi qu'il arrive, on progresse, donc on n'est pas arrêté par une difficulté, on sait la dépasser.
Ce niveau de lecture de base n'est cependant pas toujours suffisant et certaines personnes atteintes d'une déficience mentale ont encore besoin d'aide dans la vie de tous les jours, comme en témoigne Georges Gevart.
Je vois qu'il y a des démarches administratives. J'ai besoin d'une assistance SSL pour mieux comprendre le papier, ou souvent quand on ne comprend pas bien, par exemple, comme il y a plein d'arnaques, qu'on signe n'importe quoi et alors on se fait piéger, et c'est pas facile de pouvoir attraper un peu le retard du mental.
Malheureusement, il existe trop peu de structures adéquates pouvant répondre aux nombreuses demandes des personnes handicapées mentales analphabètes. Cependant, au sein des entreprises de travail adaptées, des cours de lecture sont proposés aux travailleurs déficients afin qu'ils puissent être plus performants dans leur travail. Docteur Calhoun.
Ce groupe particulier, ce groupe, disons, sociologique particulier, a une activité généralement à travers le réseau des lieux de travail adaptés, donc des entreprises de travail adaptées, au sein desquelles il existe des processus d'apprentissage par rapport au travail qu'ils font dans ces ateliers. Et donc, d'une certaine manière, dans le cadre de leur formation professionnelle continuée, il y a là des actions qui sont prises, mais c'est toujours à l'intérieur, bien entendu, de la direction de l'entreprise adaptée.
Des cours de lecture adaptés existent donc bel et bien pour des déficients mentaux qui travaillent. Mais pourquoi n'y a-t-il pas ou y a-t-il peu de subsides pour des structures indépendantes qui prendraient en charge des cours de lecture adaptés aux déficients mentaux ? Guillaume Petit a une théorie à ce sujet.
La pédagogie adaptée aux personnes qui sont handicapées mentales légères, c'est quelque chose qui n'est absolument pas formalisé. C'est pas du tout un secteur pour lequel on a un cadre très bien défini, et je dirais même jusqu'à présent, c'était peut-être pas non plus une des priorités en termes d'éducation, en termes de formation, que de s'adresser à ces publics-là. Moi je dirais simplement qu'on est dans une société qui privilégie avant tout le travail, la productivité, que ces personnes étant écartées des lois logiques de productivité, quelque part elles n'intéressent pas grand monde, enfin, c'est pas qu'elles n'intéressent pas grand monde, mais on a moins d'attentes en ce qui concerne des compétences précises. Je pense que pour quelqu'un qui est handicapé mental, on s'attend simplement à ce qu'il ait, dans le meilleur des cas, les compétences qui lui permettraient de vivre comme tout le monde. Mais on n'attend rien spécialement de cette personne, ni professionnellement, ni socialement. Donc on en arrive à des gens qui ont parfois 30 ans, 35 ans, 40 ans de vécu, qui n'ont finalement que des morceaux de compétences qu'ils ont réussi à grappiller par leur expérience personnelle.
Le docteur Calhoun n'est pas d'accord.
En réalité, je ne pense pas qu'il faut raisonner comme ça, dans la mesure où il y a quand même, dans nos sociétés, Depuis déjà quelques années, la question du handicap est devenue une question politique au sens premier. C'est-à-dire que la personne en situation de handicap a les mêmes droits que ceux qui ne doivent pas faire l'effort de compenser leur handicap. Et par conséquent, dans ce contexte-là, c'est bien clair que les missions de la WIP, par exemple, ou de la COCOF, ou du VLAMS à Henskap, incluent un ensemble de dispositions qui devraient permettre précisément des apprentissages pour plus d'autonomie pour des personnes qui sont en situation difficile.
La COCOF et la WIP contactées à ce sujet nous renvoient vers les associations d'alphabétisation classique et ne semblent pas être très au courant de la problématique particulière qu'est l'alphabétisation des personnes handicapées. Le docteur Calouane estime pour sa part que c'est aux ASBL de faire elles-mêmes les démarches.
Les ASBL sont le moteur, si vous voulez. Et puis elles vont frapper aux portes. Elles vont frapper à la WIP, elles vont frapper à la COCOF. Et donc c'est un processus permanent d'essayer d'obtenir des subsides, des crédits, des conventions, etc. Et je sais que le contexte budgétaire est difficile, mais donc, c'est difficile, c'est vrai.
La région bruxelloise se plaint justement de son manque d'argent. Un meilleur financement lui permettrait peut-être de se pencher un peu plus sur le problème de l'alphabétisation des personnes handicapées mentales. Cela s'avère en effet nécessaire, car en dehors de rares initiatives privées, peu a été fait jusqu'à présent pour régler ce problème.